Lors de notre précédent volet, nous avons parlé du dessein éternel de Dieu, qui est la raison et l'explication de toutes les voies de Dieu à notre égard. Avant de reprendre notre étude sur les phases de l'expérience chrétienne présentées dans les Romains, il nous faut encore considérer un facteur qui se trouve au cœur de toutes nos expériences et qui est la puissance vitale de la vie et du service chrétien. Je pense à la présence personnelle et au ministère du Saint-Esprit. Prenons ici encore comme point de départ deux versets des Romains tirés de chacune de nos deux sections. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5, verset 5. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'est point à lui. Romains 8, verset 9. Dieu n'accorde pas ses dons au hasard et ne les distribue pas non plus de façon arbitraire. Ils sont donnés gratuitement et à tous, mais sur une base bien définie. Dieu nous a véritablement comblés en Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Éphésiens 1, verset 3. Mais pour que ces bénédictions qui sont nôtres en Christ deviennent nôtres dans notre expérience, il nous faut savoir sur quelle base nous pouvons les posséder. Lorsque nous étudions le don du Saint-Esprit, il est bon de le considérer sous deux aspects. L'Esprit répandu sur nous et l'Esprit demeurant en nous. Notre but, maintenant, est de comprendre sur quelle base ce double don du Saint-Esprit peut devenir nôtre. Nous sommes convaincus d'être dans la vérité en distinguant ainsi les manifestations extérieures et intérieures de son action. Et à mesure que nous avancerons, nous trouverons cette distinction utile. De plus, si nous les comparons, nous arriverons nécessairement à la conclusion que l'activité intérieure du Saint-Esprit est la plus précieuse. Mais en disant cela, nous ne voulons pas laisser entendre que son activité extérieure ne soit pas précieuse, elle aussi, car Dieu n'a pour ses enfants que des dons excellents. Malheureusement, nous sommes portés à ne pas estimer à toute leur valeur nos privilèges, à cause de leur extrême abondance. Les saints de l'Ancien Testament, qui étaient moins favorisés que nous, savaient mieux que nous apprécier la valeur de ce don de l'Esprit répandu sur eux. De leur temps, c'était un don accordé uniquement à quelques élus, principalement aux sacrificateurs, aux juges, aux rois et aux prophètes, alors qu'il est aujourd'hui le privilège de chaque enfant de Dieu. Pensons-y, nous pouvons avoir, reposant sur nous, le même esprit que celui qui reposait sur Moïse, l'ami de Dieu, sur David, le roi bien-aimé, et sur Élie, le puissant prophète. En recevant le don du Saint-Esprit répandu sur nous, nous nous joignons au rang des serviteurs choisis de Dieu dans l'Ancien Testament. Dès que nous voyons la valeur de ce don de Dieu et que nous comprenons aussi l'immense besoin qui est le nôtre de le posséder, nous demandons immédiatement « Comment puis-je recevoir le Saint-Esprit de manière à être pourvu de dons spirituels et rempli de puissance pour le service ? Sur quelle base l'Esprit a-t-il été donné ?» Voyons d'abord au livre des Actes, chapitre 2, versets 32 à 36. « Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité et nous en sommes tous témoins. Après donc qu'il ait été élevé à la droite de Dieu et qu'il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est pas monté au ciel, mais il a dit lui-même, « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis sous tes pieds pour te servir de marchepied. » Que toute la maison d'Israël tienne donc pour certain que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Laissons de côté un instant les versets 34 et 35 pour considérer ensemble les versets 33 et 36. Les premiers sont une citation du psaume 110 et constituent réellement une parenthèse, de sorte que nous saisirons mieux la force du raisonnement de Pierre si nous n'en tenons pas compte pour commencer. Pierre déclare au verset 33 que le Seigneur Jésus a été élevé à la droite de Dieu. Quel fut le résultat? Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Qu'est-ce qui s'ensuivit alors? La Pentecôte. Le résultat de son élévation a été ce que vous voyez et entendez. Quelle fut donc la base sur laquelle le Saint-Esprit a d'abord été donné au Seigneur Jésus pour qu'il le répande ensuite sur son peuple? Ce fut sur son élévation dans les cieux. Ce passage montre tout à fait clairement que le Saint-Esprit a été répandu parce que le Seigneur Jésus a été exalté. L'effusion d'esprit n'a aucun rapport avec nos mérites, mais uniquement avec les mérites du Seigneur Jésus. La question de ce que nous sommes n'entre ici nullement en considération, mais seulement celle de ce qu'il est. Il est glorifié, c'est pourquoi l'Esprit est répandu. Parce que le Seigneur Jésus est mort sur la croix, j'ai reçu le pardon de mes péchés. Parce que le Seigneur Jésus est ressuscité d'entre les morts, j'ai reçu la vie nouvelle. Parce que le Seigneur Jésus a été élevé à la droite du Père, j'ai reçu l'Esprit qu'il a répandu. Tout est à cause de lui, rien à cause de moi. La rémission des péchés n'est pas basée sur le mérite humain, mais sur la crucifixion du Seigneur. La régénération n'est pas basée sur le mérite humain, mais sur la résurrection du Seigneur. Et le revêtement du Saint-Esprit n'est pas basé sur le mérite humain, mais sur l'élévation du Seigneur. Le Saint-Esprit n'a pas été répandu sur vous ou sur moi pour montrer combien nous sommes grands, mais pour manifester la grandeur du Fils de Dieu. Prenons maintenant le verset 36. Il y a ici un mot qui doit attirer notre attention, le mot « donc ». Quand emploie-t-on généralement ce mot ? Non pas pour introduire une déclaration, mais en conséquence d'une déclaration qui a déjà été faite. Son emploi en réfère toujours à quelque chose qui a été mentionné auparavant. Or, qu'est-ce qui a précédé ce « donc » ? Avec quoi est-il en relation ? Il ne peut pas raisonnablement être lié au verset 34 ni au verset 35, mais il est clairement lié au verset 33. Pierre vient de faire mention de l'effusion de l'Esprit sur les disciples, que vous voyez et entendez. Et il ajoute que toute la maison d'Israël tienne donc pour certain que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Pierre dit en substance à son auditoire: cette effusion de l'Esprit dont vous êtes témoin de vos yeux et de vos oreilles est la preuve que Jésus de Nazareth, que vous avez crucifié, est maintenant Seigneur et Christ. Le Saint-Esprit a été répandu sur la terre pour démontrer ce qui a eu lieu dans les lieux célestes, l'élévation de Jésus de Nazareth à la droite de Dieu. Le but de la Pentecôte est de prouver la souveraineté de Jésus-Christ. Il y avait un jeune homme appelé Joseph, qui était tendrement aimé de son père Jacob. Un jour, la nouvelle parvint au père que son fils était mort, et pendant des années, Jacob pleura la mort de Joseph. Mais Joseph n'était pas dans la tombe. Il avait une position de gloire et de puissance. Après que Jacob eut, durant des années, pleuré la mort de son fils, la nouvelle lui arriva soudain que Joseph était vivant et qu'il occupait une position élevée en Égypte. Tout d'abord, Jacob ne put le concevoir. C'était trop beau pour être vrai. Mais il arriva enfin à être persuadé que l'histoire de l'élévation de Joseph était bien un fait. Comment fut-il amené à le croire ? Il sortit et vit les chars que Joseph avait envoyés d'Égypte. Que représentent ici ces chars ? Ils symbolisent certainement le Saint-Esprit, envoyé comme la preuve que le Fils de Dieu est dans la gloire et pour nous y transporter. Comment savons-nous que Jésus de Nazareth, qui a été crucifié il y a près de 2000 ans, n'est pas simplement mort en martyr, mais qu'il est à la droite du Père, dans la gloire? Comment pouvons-nous avoir la certitude qu'il est Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois? Nous pouvons avoir cette certitude incontestable parce qu'il a répandu son Esprit sur nous. Alléluia! Jésus est Seigneur. Jésus est Christ. Jésus de Nazareth est à la fois Seigneur et Christ. L'élévation du Seigneur Jésus est la base sur laquelle le Saint-Esprit a été donné. Est-il alors possible que le Seigneur ait été glorifié et que vous n'ayez pas reçu l'Esprit? Sur quelle base avez-vous reçu le pardon de vos péchés? Est-ce parce que vous avez prié avec tant de sérieux, ou parce que vous avez lu la Bible d'un bout à l'autre, ou parce que vous êtes allé régulièrement à l'église? Est-ce à cause de vos mérites? Non, mille fois non. Sur quelle base vos péchés ont-ils été pardonnés? La seule base du pardon est l'effusion du sang. Et puisque le sang précieux de Jésus a été versé, vos péchés ont été pardonnés. Or, le principe sur lequel nous sommes revêtus du Saint-Esprit est exactement le même que celui sur lequel nous recevons le pardon de nos péchés. Le Seigneur a été crucifié, c'est pourquoi nos péchés sont pardonnés. Le Seigneur a été glorifié, c'est pourquoi l'Esprit a été répandu sur nous. Serait-il possible que le Fils de Dieu ait versé son sang et que nos péchés n'aient pas été pardonnés? Jamais. Alors est-il possible que le Fils de Dieu ait été glorifié et que vous n'ayez pas reçu l'Esprit? Jamais. Quelqu'un dira peut-être, je suis d'accord avec tout cela, mais je n'en ai jamais fait l'expérience. Dois-je prendre un air serein et déclarer que je possède tout alors que je sais parfaitement n'avoir rien? Non, nous ne devons jamais nous contenter d'une connaissance objective des vérités. Nous avons besoin d'une expérience subjective. Mais nous ne ferons cette expérience que dans la mesure où nous nous reposons sur les réalités divines. Les faits de Dieu constituent toujours le fondement de notre expérience. Revenons encore un instant à la question de la justification. Comment avons-nous été justifiés? Non pas en cherchant à faire quelque chose, mais en acceptant le fait que le Seigneur Jésus a tout accompli. Nous sommes revêtus du Saint-Esprit exactement de la même manière. Non pas en comptant sur nos bonnes actions, mais en mettant notre foi en ce que le Seigneur Jésus a déjà accompli. Si nous n'en avons pas fait l'expérience, il nous faut demander à Dieu une révélation du fait éternel du baptême du Saint-Esprit, qui est le don du Seigneur exalté à son Église. Dès que nous aurons vu cela, tout effort cessera et notre prière se changera en louange. Ce fut une révélation de ce que le Seigneur a fait pour le monde qui a mis fin à nos efforts pour trouver le pardon de nos péchés. Et c'est une révélation de ce que le Seigneur a fait pour son Église qui mettra fin à nos efforts pour obtenir le baptême du Saint-Esprit. Nous nous efforçons parce que nous n'avons pas vu l'œuvre de Christ. Mais une fois que nous l'aurons vu, la foi jaillira dans nos cœurs et à mesure que nous croirons, l'expérience viendra. La foi est encore la clé. De même que pour le pardon, la venue du Saint-Esprit sur nous est entièrement une question de foi. Dès que nous voyons le Seigneur Jésus sur la croix, nous savons que nos péchés sont pardonnés. Et dès que nous voyons le Seigneur Jésus sur le trône, nous savons que le Saint-Esprit a été répandu sur nous. La base sur laquelle nous sommes revêtus du Saint-Esprit, ce ne sont ni nos prières, ni nos jeûnes, ni l'attente, mais uniquement l'élévation de Christ sur le trône. Ceux qui insistent sur l'attente en organisant des réunions d'attente ne peuvent que nous égarer, car le don n'est pas réservé à quelques privilégiés. Il est pour tous, parce qu'il ne nous est pas accordé sur la base de ce que nous sommes, mais sur la base de ce qu'est Christ. L'Esprit a été répandu pour prouver sa bonté et sa grandeur, et non les nôtres. Nous avons reçu le pardon parce que Christ a été crucifié. Nous avons été revêtus de la puissance d'en haut parce qu'il a été glorifié. C'est grâce à lui que nous avons tout. Supposons qu'un incroyant exprime le désir d'être sauvé. Après lui avoir expliqué le chemin du salut, nous avons prié avec lui. Supposons ensuite qu'il prie ainsi. « Seigneur, je crois que tu es mort pour moi et que tu peux effacer tous mes péchés. Je crois vraiment que tu me pardonneras. » Aurons-nous l'assurance que cet homme est sauvé? Quand aurons-nous la certitude qu'il est réellement né nouveau? Ce ne sera pas quand il priera « Seigneur, je crois que tu veux pardonner mes péchés. » Mais lorsqu'il dira « Seigneur, je te loue parce que tu as pardonné mes péchés. Tu es mort pour moi, c'est pourquoi mes péchés sont effacés. » Nous croyons qu'une personne est sauvée lorsque sa prière se transforme en louange, lorsqu'elle cesse de demander au Seigneur de lui pardonner et qu'elle le loue parce qu'il l'a déjà fait, puisque le sang de Jésus a déjà été versé. De la même manière, vous pouvez prier et attendre pendant des années sans jamais faire l'expérience de la puissance du Saint-Esprit. Mais quand vous cessez de supplier le Seigneur de répandre son esprit sur vous et que vous le louez avec une entière confiance de ce que l'esprit a été répandu sur vous puisque le Seigneur Jésus a été glorifié, vous découvrez que votre problème est résolu. Que Dieu soit loué. Aucun de ses enfants n'a besoin de languir ni même d'attendre pour que l'esprit lui soit donné. Jésus ne va pas être fait Seigneur. Il est Seigneur. Je ne vais pas recevoir l'Esprit, j'ai reçu l'Esprit. Tout est une question de foi qui nous vient par révélation, lorsque nos yeux sont ouverts pour voir que l'Esprit a déjà été répandu, parce que Jésus a déjà été glorifié. La prière se change dans nos cœurs en louange. Toutes les bénédictions spirituelles nous sont données sur une base déterminée. Les dons de Dieu nous sont accordés gratuitement, mais de notre côté, nous avons à répondre à certaines conditions pour recevoir ces dons. Il y a un passage dans la parole de Dieu qui nous montre clairement les conditions à remplir en ce qui concerne le don de l'Esprit. Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour obtenir la rémission de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu en appellera. Acte 2, versets 38 et 39. Quatre choses sont mentionnées dans ce passage. La repentance, le baptême, le pardon et le Saint-Esprit. Les deux premières sont des conditions. Les deux dernières sont des dons. Quelles sont les conditions à remplir pour avoir le pardon des péchés? Selon la parole de Dieu, il y en a deux. La repentance et le baptême. La première condition est la repentance qui signifie un changement de pensée. Auparavant, je pensais qu'il était agréable de pécher, mais j'ai maintenant changé d'avis à ce sujet. Autrefois, je trouvais le monde attrayant, mais maintenant, je comprends plus clairement ce qu'il est. Auparavant, je pensais que c'était une affaire pitoyable que de devenir chrétien, mais maintenant, je pense tout différemment. Il y eut un temps où je trouvais certaines choses délicieuses, je les regarde maintenant avec dégoût. Il y en a d'autres que j'estimais n'avoir aucune valeur et je les regarde maintenant comme des plus précieuses. Aucune vie ne peut être réellement transformée si elle ne passe pas par une telle conversion de pensée et de cœur. La seconde condition est le baptême. Le baptême est l'expression extérieure de la foi intérieure. Lorsque je crois réellement dans mon cœur que je suis mort avec Christ, que j'ai été enseveli et suis ressuscité avec lui, alors je demande le baptême. Par là, je déclare publiquement ce que je crois de tout mon cœur. Le baptême est la foi en action. Le pardon des péchés est donc soumis à deux conditions fixées par Dieu. La repentance et la foi, exprimées publiquement. Vous êtes-vous repenti? Avez-vous rendu publiquement témoignage de votre union avec notre Seigneur? Avez-vous alors reçu la rémission des péchés et le don du Saint-Esprit? Vous dites n'avoir reçu que le premier de ces dons, et non le second. Pourtant, Dieu vous a offert deux dons, si vous avez répondu à ces deux conditions. Pourquoi n'en avez-vous saisi qu'un seul? Que faites-vous du second? Supposez que j'entre dans une librairie, que j'y choisisse un livre en deux volumes, au prix de 35 euros, que je paye la somme due, et que je sorte du magasin en laissant l'un des livres sur le comptoir. En rentrant chez moi, et en m'apercevant de ma distraction, que devrais-je faire, à votre avis? Je retournerai directement à la librairie pour y trouver l'ouvrage oublié. Mais je ne penserai pas à payer quoi que ce soit. J'expliquerai simplement au libraire que les deux volumes ont été payés et lui demanderai par conséquent de bien vouloir me donner le second. Et sans rien payer, je sortirai tout heureux du magasin, mon livre, sous le bras. Ne feriez-vous pas de même dans une situation semblable? Vous êtes dans la même situation. Si vous avez rempli les conditions, vous avez le droit de recevoir les deux dons et non simplement un seul. Vous avez déjà accepté le premier. Pourquoi ne pas venir maintenant prendre l'autre? Dites au Seigneur. Seigneur, je me suis soumis aux conditions nécessaires pour recevoir la rémission des péchés et le don du Saint-Esprit. Mais dans mon ignorance, je n'ai saisi que le pardon de mes péchés. Je viens à toi maintenant pour saisir le don du Saint-Esprit et je te loue pour cela.